J'ai pas beaucoup de voix ce matin. J'espère en avoir jusqu'à la fin de ce message. Ma voix est pas très en forme. Il y a des allergies en ce moment, c'est le printemps. On n'est pas encore à l'été où l'herbe est complètement grillée par le soleil. On a plein d'herbe en ce moment et puis ça tombe bien parce que je voudrais vous parler de l'herbe pour commencer ce message et je vais essayer d'être court ce matin. On arrive tous à imaginer un petit brin d'herbe, OK, qu'on a entre les doigts, un tout petit brin d'herbe. On arrive à imaginer assez facilement que ce brin d'herbe, on le prend et on le casse en deux. On se sent même fort quand on est petit hein, et qu'on arrive à casser ce bout d'herbe en deux. C'est hyper fragile de l'herbe. Ça se casse tout facilement. Et pourtant, est-ce que vous avez déjà vu du béton ou du goudron défoncé par un brin d'herbe qui a poussé à cet endroit-là? Vous avez déjà vu ça? Il y a des choses comme ça qui sont d'une fragilité juste incroyable et qui en même temps revêtent une puissance qu'on ne soupçonnait mais même pas. Même pas. Et on a des histoires comme ça qui sont écrites par la nature, il y en a d'autres qui sont vécues par les hommes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Tiananmen où il y a juste un homme, un gars sur une place qui s'est levé, qui s'est tenu devant des chars et les chars se sont arrêtés. La suite de l'histoire, c'est qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont emprisonné. On ne sait pas ce qui est devenu, on ne sait même pas comment s'appelait ce gars-là. Mais moi, ce que je veux juste qu'on retienne, c'est que juste un seul homme qui s'est tenu à un moment donné sur une place a fait s'arrêter des chars. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose dans lequel on voit d'abord la puissance, d'abord la force, dans lequel on voit la victoire? Non, et j'aimerais nous faire réfléchir à ça. Ce matin, j'aimerais juste nous faire réfléchir à la manière dont on voit les choses, la manière dont on regarde les choses. Quel est le regard qu'on pose sur ce qui nous entoure et quel est le regard qu'on pose sur la journée et ce dont on va parler aujourd'hui? Je vous ai parlé de Tiananmen, de ce gars-là. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui est un petit peu similaire. Le peuple d'Israël, il était face à un peuple très puissant, le peuple des Philistins, dans lesquels il y avait des géants, d'accord, mais des vrais géants de 3,20 m, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Et il y a un de ces géants qui s'appelait Goliath et qui harangue Israël et qui défie Israël et qui insulte le nom de Dieu. Et face à ça, face à ce géant, est-ce qu'Israël il déchaîne ses armées pour le faire tomber? Eh bien, dans l'histoire qu'on lit, il se trouve que ce n'est pas ça. Il se trouve que tout le monde a la pétoche. Tout le monde a peur. Et ce que je trouve juste incroyable, c'est que la fin de cette histoire, c'est que c'est juste un enfant, un garçon qui se lève, qui va chercher 5 cailloux dans la rivière et qui, avec sa fronde et la puissance de l'Éternel, va défier ce géant. Et il envoie son caillou, et son caillou rentre dans le front, et ce géant, il tombe par terre. Et ensuite, il s'appelle David, il va couper la tête de ce géant, et les Philistins s'en vont. Je veux dire, la Bible nous parle de ces mêmes choses qui sont des rapports de force où on s'imaginerait qu'il y a une puissance incroyable qui se déchaîne face à une autre et que cette grande puissance, elle gagne, alors que pourtant, nos yeux ne peuvent voir qu'une chose. Nos yeux ne peuvent voir qu'un petit enfant qui s'est levé face à un géant. Et si on regarde juste ça de l'histoire, et qu'on n'a pas un peu de foi dans notre cœur parce qu'on sait ce qui se passe après, on se dit, mais moi je connais la fin. Je sais ce qui va se passer. Ok, il est courageux ce garçon, mais quelle chance il a de gagner? Zéro. Aucune. Mais Dieu fait des choses incroyables avec ces choses qui paraissent complètement faibles. C'est ce que la Bible nous dit et on va le lire ce matin. Dieu choisit des choses faibles pour confondre des choses qui sont fortes. Il y a une autre histoire dans la parole de Dieu où à un moment donné, Jésus il est suivi par une grande foule. On nous parle d'une foule de 5000 hommes. Donc je pense qu'on ne comptait même pas les femmes, les enfants. À mon avis, il y avait une foule assez grande qui était là. Et puis à un moment donné, la foule à la fin, ça fait un moment qu'elle suit Jésus, que Jésus enseigne, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Dans cette histoire, on nous raconte qu'il y a de la même manière un garçon, un enfant, qui arrive et qui vient donner, écoutez bien, il vient donner 5 pains et puis deux poissons. Et il se dit, il est un peu, d'accord, il se dit qu'avec cinq pains et deux poissons, il va pouvoir répondre à la faim d'une foule entière, d'une foule de 5 000 hommes. Enfin, je veux dire, quel est le sens de cette histoire? Dites-moi, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi ce garçon, il s'est levé et il s'est dit, peut-être que si je donne cinq pains et deux poissons, c'est-à-dire grosso modo le pique-nique de ma famille, est-ce que si je donne ce petit pique-nique-là, je vais résoudre le problème de la faim de toute cette foule? C'est absurde, c'est fou. Et quand nos yeux regardent cette histoire, on regarde de la folie. Et quand nos yeux regardent cette histoire, on peut même juger ça. Dire, mais quelle naïveté! Mais quelle naïveté! Mais qu'est-ce qu'il est crédule, ce garçon! Et pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, Dieu fait une œuvre incroyable de multiplication de ces cinq pains et ces deux poissons, et toute la foule a mangé à partir de ces cinq pains et ces deux poissons qui ont été donnés. Et donc, de la même manière, ce que je voudrais vous inviter à regarder là, c'est que Dieu y fait une œuvre incroyable au travers de quelque chose qui paraît complètement fou. Et peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui, et peut-être que ce qu'on fait là maintenant, vous le voyez comme quelque chose qui semble ne pas avoir de sens, comme quelque chose qui semble fou. Peut-être que quand on parle que le salut, il vient de quelqu'un qui est mort sur une croix, qui s'est fait flageller par les autres, qui a été rejeté par les siens, et que ça, c'est le plan du Dieu créateur de toute la terre, ça paraît mais tellement faible, ça paraît tellement fou. Et moi, je veux vous inviter ce matin à réaliser que Dieu, il se plaît à choisir ce qui est faible et ce qui apparemment n'a pas de sens pour manifester une puissance incroyable. Et on va le lire et on va en parler ce matin parce que c'est ça l'histoire de Pâques. C'est la même chose. L'histoire de Pâques, c'est l'histoire de la faiblesse qui renverse les forteresses. C'est l'histoire de la folie qui devient une sagesse. C'est exactement la même chose. Alors Pâques, ça commence d'abord par l'histoire du peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte. Le peuple, il était en captivité. Ils étaient esclaves de l'Égypte. Et puis, je vous passe tous les détails, il arrive à un moment donné où Dieu va faire sortir ce peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Au travers de cette sortie, il y a à un moment donné un épisode avec ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à regarder ou à vous demander une explication lors de l'apéro tout à l'heure. Et puis, sur ces 10 plaies qui sont envoyées, la dernière plaie qui est envoyée, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est pas compliqué. C'est un ange qui passait et puis il passe au milieu du bétail et il tue tous les premiers-nés du bétail. Il passe dans les maisons et il tue tous les premiers-nés de la maison. Il passe dans le palais du pharaon et il tue le premier-né du pharaon. Voilà ce que fait l'ange de la mort une nuit pour cette 10e et dernière plaie en Égypte. Mais il y a quelque chose qui a été demandé au peuple juif. On leur a dit, sacrifiez un agneau. On a chanté à propos d'un agneau ce matin. Sacrifiez un agneau sans tache, un agneau parfait, un agneau faible. Sacrifiez cet agneau. Utilisez le sang pour en mettre sur les linteaux de vos portes. Et juste parce que le sang est là, l'ange ne passera pas dans vos maisons et il n'y aura pas de mort dans vos maisons. Et c'est ce qui se passe. Des fois, on s'attend à des solutions qui font waouh. Mais le Seigneur, il leur a juste demandé ça. Il leur a juste demandé, sacrifier un agneau, passer le sang, et l'ange de la mort, il passera pas à cet endroit-là. Alors que l'ange de la mort, il est passé partout, et qu'en Égypte, ça a été une catastrophe. Il n'est pas passé là où le sang avait été badigeonné sur les linteaux des portes. Dieu choisit quelque chose d'apparemment faible. Dieu choisit quelque chose d'apparemment fou pour manifester sa puissance. C'est ce qu'on lit dans cette histoire. Et c'est tout l'enjeu de la même Pâque que nous célébrons aujourd'hui, parce que cette Pâque des Juifs est une préfiguration de cette Pâque que nous pouvons célébrer avec Christ, qui est l'agneau qui a été immolé. Christ est cet agneau qui a été brisé, pour lequel le sang a été versé. Et pour lequel, si nous passons ce sang sur les linteaux de la porte de nos cœurs, alors que l'ange de la mort passera à un moment dans notre vie, nous serons trouvés saufs. Nous serons trouvés vivants, héritiers d'une vie qui est éternelle. Et moi, je vous invite à regarder Pâques de cette manière-là aujourd'hui. Je vous invite et je vous défie. Est-ce que vous saurez voir la puissance de Dieu au travers de ce que peut-être vos yeux aujourd'hui jugent comme quelque chose de faible? Est-ce que vous saurez voir la puissance de Dieu? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, et puis je vais lire quelques versets après, il est écrit ça. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Les Juifs demandent un miracle, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que grec, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dans le contexte où Paul a écrit, il y avait effectivement les Juifs et les Grecs, et une partie du peuple juif qui ne reconnaissait pas du tout la divinité de Christ et qui rejetait ça comme étant une folie. Et ce que les Juifs demandaient, c'était un miracle, c'était le signe, une preuve évidente de la royauté de Christ, du fait qu'il était le Messie absolu. Ils demandaient ce miracle-là. Les Grecs, eux, raisonnaient. Ils sont le symbole aussi de tout notre intellect et de tout ce que nous pouvons raisonner par rapport au fait que c'est juste ou c'est faux. Est-ce qu'il y a des preuves pour pouvoir dire que c'est bon? Est-ce que intellectuellement c'est quelque chose que je peux apprécier, accepter ou pas? Alors les Juifs demandent des miracles. Peut-être vous demandez un miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Peut-être vous cherchez à comprendre intellectuellement ce qui se passe là. Mais moi je rejoins l'apôtre Paul. Nous, prêchons Christ crucifié. Folie pour le monde, mais sagesse pour ceux qui croient. Et pour beaucoup, cette prédication, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est une folie. Le fait que Dieu devienne homme en son Fils éternel et bien-aimé pour devenir quoi? Pour devenir la victime d'hommes qui sont cruels et qui sont insensibles. Mais où est le sens là-dedans? Où est la raison là-dedans? Où est la puissance là-dedans? Il n'y en a pas. Jésus, le Fils de Dieu, la parole nous dit qu'il existait avant la fondation du monde, qu'il était Dieu et qu'il régnait déjà sur toutes choses, et qu'il choisit d'obéir à son Père et de se sacrifier en s'incarnant comme un homme dans un bébé et en vivant la même vie que n'importe lequel d'entre nous. Et Jésus qui devient homme, c'est ça l'histoire de Noël. C'est l'espérance. Noël, c'est l'espoir. Noël, c'est l'espoir de Dieu qui s'incarne, de Dieu qui amorce son plan éternel de salut pour chaque homme et chaque femme. Puis Jésus grandit. Jésus ne commet aucun péché. Il est parfait. Il est le seul qui obéit pleinement à toute la loi qui était prescrite par le peuple juif. Mais Jésus est condamné, et on l'a lu ce matin, il est condamné à mourir sur la croix, et, important, Jésus, il meurt. Jésus meurt. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a été flagellé et qui a perdu beaucoup de sang. C'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui a été mis dans le tombeau, laissé parmi les morts, enveloppé dans un linge, avec une énorme pierre qui a été roulée devant. C'était une tombe. Jésus était mort. Et pendant plusieurs jours, on est dans cet état-là, dans cette attente. Mais au troisième jour, Jésus ressuscite. Il y en a qui reviennent au tombeau, la pierre est roulée. Même les soldats qui gardaient le tombeau ne comprennent pas ce qui s'est passé. Dans la nuit, La pierre qui était mais une pierre mais énorme a été roulée. Tous les cordages qui tenaient cette pierre, qui la tenaient fermée et scellée, ont explosé. Et puis quand ils ont regardé à l'intérieur, est-ce qu'ils ont trouvé Christ étendu et son sépulcre qui était là? Non, ils ont trouvé les linges, effectivement. Mais ils n'ont pas trouvé Jésus. Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et il se présente à ses disciples, il se présente à plusieurs personnes. Et après, il est enlevé au ciel et il monte auprès de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente et dans l'espérance que Jésus revient. Voilà ce qui nous motive. Voilà ce que nous croyons. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce qui fait l'espérance chrétienne. C'est de reconnaître que quand Christ est mort et quand Christ est ressuscité, il a accompli quelque chose qui change nos vies et qui amène le salut là où il ne pouvait pas y avoir de salut, quand bien même c'est une folie, quand bien même ça paraît faible. Voilà notre espérance. Et le sens de tout ça, c'est qu'il fallait que le sang coule en rançon pour le péché. Parce que depuis tout temps, au travers de toute l'histoire du peuple juif, quand il y avait une faute, il fallait que le sang coule. Il fallait un sacrifice d'animal pour couvrir le péché. Il fallait que l'agneau soit immolé. Il fallait que son sang serve à purifier. Et il fallait le sang d'un innocent. Et Jésus, c'est le seul qui avait jamais péché. C'est le seul qui a accompli parfaitement la volonté du Père jusqu'au bout. C'est son sang seul qui pouvait satisfaire au sacrifice et pas le nôtre, qui était un sang imparfait. Mais parce que Jésus est mort et que son sang a coulé, nos péchés sont pardonnés. Voilà notre espérance au travers de Pâques. Et parce que Jésus est ressuscité et qu'il est assis auprès du Père pour régner sur toutes choses, nos vies lui appartiennent et que nous pouvons hériter au travers de lui la vie éternelle. Voilà ce que nous croyons à Pâques. Alors que l'ange de la mort passe dans nos vies, le sang de Christ qui est passé sur les linteaux de la porte de notre cœur nous garantit une vie éternelle. Et c'est ça tout le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, il est très simple et vous pourrez le retenir. Dieu sauve des pécheurs. Dieu sauve des pécheurs. C'est pas plus compliqué que ça. C'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, c'est trois personnes et une seule à la fois. Ça, c'est compliqué. Une autre fois, on vous l'expliquera. Et encore. Trois personnes qui, dans une sagesse, une puissance et un amour souverain, ils travaillent ensemble au salut d'un peuple qui est élu. D'accord? Le Père, il choisit de se révéler. Le Fils, il accomplit la volonté du Père en rachetant toute chose à la croix et en donnant sa vie. Et l'Esprit, il exécute la volonté et le plan du Père et du Fils en renouvelant chacun d'entre nous alors que nous disons oui, je crois. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Et à aucun moment donné, nous avons notre part là-dedans. Dieu. Dieu seul. Dieu sauve. Il sauve et c'est ce qu'il fait du début jusqu'à la fin. Dieu fait tout. Il pourvoit pour ce qui est nécessaire pour notre passage de la mort du péché jusqu'à la vie dans la gloire. C'est Dieu qui prévoit, qui accomplit et qui communique la rédemption. C'est lui qui appelle, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui justifie, c'est lui qui fait tout. Dieu sauve. Dieu sauve des pécheurs, des gens tels que nous, des gens tels que vous et moi, des gens tels que Dieu les trouve, coupables, vils, désespérés, impuissants, incapables de lever le petit doigt pour faire la volonté de Dieu ou pour mieux accomplir la part spirituelle que nous pourrions avoir. Voilà l'état dans lequel nous sommes. Qui de nous, par sa sagesse ou par sa puissance, est capable de quoi que ce soit quand il est question du plan du salut? Rien, les amis. Rien. Mais c'est ça qui est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu qui a choisi de faire ça. Ça dépend de Dieu qui a choisi de faire un plan absolument parfait et de pourvoir à toute chose dans ce plan-là pour nous. Cette espérance, elle n'est pas liée au fait que je mène une super vie. Cette espérance, elle n'est pas liée au fait que je ne pécherai plus jamais. Cette espérance, elle n'est pas liée au fait que j'étais quelqu'un de quand même bien dans ma vie. Cette espérance, elle est simplement liée au fait que Dieu a choisi de sauver des pécheurs. Un pécheur comme moi, un pécheur comme vous. Et il n'y en a aucun dans cette salle qui peut se dire, moi je suis un juste qui n'ai jamais péché. Tous nous sommes condamnables. Tous nous sommes coupables. Tous nous avons désobéi d'une manière ou d'une autre à un moment donné ou à un autre. Et tous nous méritons d'être tenus au-dessus de la fournaise ardente qui nous attend pour l'éternité. Cet enfer qui est réel, les amis, qui est bien réel. On mérite tous d'être jetés là. Selon la justice, Dieu ne serait pas juste si alors que nous avons désobéi, nous héritons la vie éternelle, parce que finalement il dit, oh, mais non, c'est pas grave. Dieu ne serait pas juste, parce que Dieu est juste. Nous devons mourir. Mais parce que Dieu est amour, il a prévu que quelqu'un d'autre meure à notre place. Et aujourd'hui, alors que notre péché répugne Dieu et qu'on est tenu par sa miséricorde et par sa grâce au-dessus de cette fournaise, Dieu prévoit un plan incroyable pour en Jésus nous ramener dans son royaume et nous appeler à la vie éternelle. Et l'évangile, c'est donc une bonne nouvelle. Et c'est vraiment comme ça que je voudrais que vous le voyez ce matin. Ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire et le message de Pâques dont on parle, c'est une nouvelle qui est juste extraordinaire. Peut-être probablement la meilleure nouvelle que vous avez jamais entendue. Et j'aimerais juste vous faire imaginer quelque chose. Imaginez que vous êtes condamné à mort parce que vous avez commis un crime. C'est plus ou moins facile à imaginer pour chacun. Imaginez, vous êtes vraiment condamné à mort. Vous avez commis un crime, la sentence, elle a été prononcée par le juge, c'est que vous êtes mis à mort. Vous êtes condamné, et c'est normal, on est d'accord avec ça. Quelqu'un qui commet un crime, oh bon, alors ça remet en question la peine de mort, mais oubliez ça, il y a châtiment, c'est ça que je veux dire, ok ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre la peine de mort. Voilà, non. Et pour l'enregistrement, je vais le dire, moi je crois qu'on n'a pas le droit de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un les uns sur les autres. Ce n'est pas à nous de gérer ça. Pour autant, imaginez qu'on est aux États-Unis et donc il y a eu un crime qui a été commis. Et il y a eu une sentence qui a été prononcée par le juge. Et vous méritez la mort. Vous êtes condamné à mort. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez fait est contraire à la loi. Et ce que vous avez fait justifie pleinement que le juge ait dit, selon la loi du pays qui est écrite, que vous méritez la mort. Et il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est totalement juste que de se dire que parce qu'il y a une loi qui dit que si vous tuez quelqu'un, vous êtes condamnable à la mort, eh bien le jour où vous faites ça, vous êtes condamnable à la mort, vous êtes coupable. Ok. Donc imaginez que vous êtes dans ce cadre-là, vous avez commis une faute qui est irréparable, vous êtes jugé coupable, condamnable, et la juste sentence de ça, c'est la mort. Et alors que vous êtes dans ce couloir, en attendant le moment où vous allez être mis à mort, on vient ouvrir votre cellule, et puis on vient vous annoncer que quelqu'un a accepté de mourir à votre place. Ça paraît insensé. Complètement. Mais voilà, on vous annonce que quelqu'un a choisi de mourir à votre place. Non, ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis des crimes et qui doit lui aussi mourir de la même manière que vous. En fait, même quand on se renseigne un petit peu, c'est quelqu'un qui a absolument jamais enfreint la loi. Mais jamais. Voilà, il a respecté tous les feux rouges, il s'est arrêté au stop 3 secondes. Il n'a jamais enfreint la loi. Jamais, jamais, jamais. Mais simplement, au dire de ce qu'on vous raconte, parce que cette personne vous aime, elle a choisi de mourir pour vous, pour que vous, vous puissiez continuer à vivre. Et le plus fort dans tout ça, c'est que le juge, il a accepté que ce soit comme ça. Le juge, il a accepté que cette personne-là, elle soit OK de mourir à votre place et que vous puissiez continuer, alors que votre faute, elle n'a pas changé, alors que vous êtes toujours autant condamnable, alors que vous méritez toujours tout autant la mort par rapport à ce que vous avez fait, quelqu'un d'autre choisit de donner sa vie pour vous. On est d'accord que ce que je dis là, ça paraît complètement insensé. On est tous d'accord avec ça? Que ça paraît fou? On est à peu près tous d'accord avec ça, que c'est pas quelque chose qu'on va voir dans ce monde, tellement ça paraît inconcevable. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est ça. Et peut-être que pour vous, l'évangile, il est de la même manière complètement inconcevable, parce que c'est une histoire qui est trop gentille. Parce que c'est une histoire qui ne rentre pas dans votre référentiel de valeur, parce qu'on ne vous a pas éduqué avec ça, parce que vous dites, mais c'est pas possible que ce soit trop facile. C'est trop simple. C'est trop simple. Si je mérite la mort, c'est trop simple que quelqu'un qui n'a absolument rien fait vienne mourir pour moi et que puis moi je continue à vivre comme ça. C'est trop simple. Peut-être que vous jugez ça inconcevable. Peut-être que vous jugez ça trop simple. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au départ. Dieu choisit les choses folles. Dieu choisit les choses faibles pour confondre celles qui sont sages et celles qui sont fortes selon ce monde. Et c'est ça la nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Une excellente et une merveilleuse nouvelle pour chacun de nous. Jésus est mort à la croix pour vous, pour pardonner vos péchés selon la justice du Père, mais il est aussi ressuscité et c'est ce qu'il veut faire en vous, vous donner l'opportunité de naître à nouveau à une vie nouvelle. Jésus n'est pas juste mort à la croix pour sauver nos péchés, il est aussi ressuscité et il nous appelle à une vie nouvelle. Et j'espère que le jour où vous sortez de votre cellule, en ayant accepté que quelqu'un d'autre est mort pour vous, votre vie ne ressemblera plus à celle que vous aviez avant. Oui, nous sommes redevables de ce qu'il a fait, parce que ce sacrifice est tellement incroyable que ça nous appelle à vivre différemment, à vivre en nouveauté de vie. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on ne change même pas seulement par nos propres efforts, on change parce que l'Esprit nous renouvelle et nous donne de marcher différemment. Vous imaginez tout ce que le Seigneur a accompli dans ce temps de Pâques et à quel point c'est un temps qui est important pour nous. Il est le point central, il est le basculement de toutes nos vies, il est le basculement de toute l'histoire. Le salut est là. Le salut est arrivé. L'espérance de la vie éternelle est là. Souvenez-vous du verset qu'on a lu tout à l'heure. Les Juifs demandent un miracle, les Grecs la sagesse. Et vous, qu'est-ce que vous demandez? Nous, nous prêchons l'amour. L'amour parfait, l'amour sacrificiel. Et c'est peut-être une folie pour vous, pour celui qui juge vite ou alors qui juge de loin. Mais je vous assure que c'est une puissance pour celui qui choisit de croire. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, voilà notre part, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, je vous laisse maintenant avec cette question-là. Que choisissez-vous de croire ce matin? Est-ce que tout ça, c'est que du vent? Est-ce que tout ça, c'est que de la folie? Est-ce que tout ça paraît tellement faible et tellement petit comme plan, tellement voué à l'échec? Ou est-ce que c'est probablement la chose la plus importante que vous ayez jamais entendue et la chose la plus importante que vous devriez considérer? De vous dire que dans cette chose toute petite, toute faible, toute folle, Dieu a un plan d'une puissance inouïe. Il est celui qui triomphe sur la mort. Il est celui qui triomphe sur les faiblesses de nos vies. Il est celui qui triomphe sur toute chose. Et pourtant, il a choisi, comme l'agneau immolé, que Jésus soit mis à mort sur la croix pour sauver nos péchés. Et si vous acceptez un peu avec humilité que c'est un message qui est à considérer, je pense que c'est un message qui demande une réponse. Et moi, je voudrais nous inviter à prier maintenant. Et puis, je voudrais inviter, donc on va fermer les yeux, je voudrais inviter ceux qui sont remués, touchés par ce message, ceux qui sont interpellés par cette réalité que l'Évangile, malgré sa folie et sa faiblesse apparente, est une puissance incroyable et une bonne nouvelle, la meilleure de toutes les nouvelles. Si c'est votre cas, Je vous invite à prier avec moi maintenant, peut-être à répéter dans votre cœur ou en murmurant ces choses-là et ce que je vais dire. Seigneur, mon premier mot quand je pense à ce que tu as fait, c'est merci. Merci Seigneur. Merci d'être celui qui est Dieu, d'être celui qui sauve et qui sauve des gens comme moi, Seigneur. Moi, je ne mérite rien, mais toi, Seigneur, tu as accompli ce qui était suffisant pour que l'espoir dans ma vie grandisse, Seigneur, alors que je regarde à ce que tu as fait et que je comprenne que par ta mort et par ta résurrection, Seigneur, j'ai la vie éternelle. Alors maintenant, Seigneur, je veux dire, moi je veux le redire aujourd'hui, mais peut-être que mes frères et sœurs et ceux qui m'entendent veulent le dire pour la première fois aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que ton plan paraît fou, mais qu'il est incroyablement puissant. Je reconnais que ta justice, elle est satisfaite par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Je reconnais qu'au travers de la mort et de la résurrection de Christ, je peux hériter de la vie éternelle que tu as promise. Et Seigneur, maintenant, je veux te donner toute ma vie en retour. Je veux te demander de faire ton œuvre en moi, de faire ton œuvre dans mon cœur, de poursuivre ce que tu as commencé et de l'amener jusqu'à sa perfection. Seigneur, je veux me consacrer à toi parce que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur, et merci pour cette puissance de la croix. Amen. Amen.